7. La tuerie terminée, c'est-à-dire à la nuit noire. On avait commencé en plein jour. On n'enleva pas les cadavres. Ils étaient tellement pressés que rien que devant une seule boutique, la boutique de Barbedienne, on en compta 33. Chaque carré de terre découpé dans l'asphalte, au pied des arbres du boulevard, était un réservoir de sang. Les morts, dit un témoin, étaient entassés, en monceaux, les uns sur les autres, vieillards, enfants, blouses et paletots, réunis dans un indescriptible pêle-mêle, têtes, bras, jambes confondues. Un autre témoin décrit ainsi un groupe de 3 individus. 2 étaient renversés sur le dos. Un 3e, s'étant embarrassé entre leurs jambes, était tombé sur eux. Les cadavres isolés étaient rares. On les remarquait plus que les autres. Un jeune homme, bien vêtu, était assis, adossé à un mur, les jambes écartées, les bras à demi croisés, un jonc de verdier dans la main droite, et semblait regarder. Il était mort. Un peu plus loin, les balles avaient cloué contre une boutique un adolescent en pantalon de velours de coton, qui tenait à la main des épreuves d'imprimerie. Le vent agitait ses feuilles sanglantes sur lesquelles le poignet du mort s'était crispé. Un pauvre vieux, à cheveux blancs, était étendu au milieu de la chaussée, avec son parapluie à côté de lui. Il touchait presque du coude un jeune homme en bottes vernies et en gants jaunes, qui gisait, ayant encore le lorgnon dans l'œil. À quelques pas était couché, la tête sur le trottoir, les pieds sur le pavé, une femme du peuple qui s'enfuyait son enfant dans ses bras. La mère et l'enfant étaient morts, mais la mère n'avait pas lâché l'enfant. « Ah, vous me direz, monsieur Bonaparte, que vous en êtes bien fâché, mais que c'est un malheur, qu'en présence de Paris prêt à se soulever, il a bien fallu prendre un parti, et que vous avez été acculé à cette nécessité. Et que, quant au coup d'État, vous aviez des dettes, que vos ministres avaient des dettes, que vos aides de camp avaient des dettes, que vos valets de pied avaient des dettes, que vous répondiez de tout. Qu'on n'est pas prince, que diable, pour ne pas manger de temps en temps quelques millions de trop. Il faut bien s'amuser un peu et jouir de la vie. Que c'est la faute de l'Assemblée qui n'a pas su comprendre cela, et qui voulait vous condamner à quelque chose comme 2 maigres millions par an. Et qui plus est, vous forcez de quitter le pouvoir au bout de vos 4 ans et d'exécuter la Constitution. Qu'on ne peut pas, après tout, sortir de l'Élysée pour entrer à Clichy. Que vous aviez en vain eu recours aux petits expédients prévus par l'article 405. Que les scandales approchaient, que la presse démagogique jasait, que l'affaire des lingots d'or allait éclater, que vous devez du respect au nom de Napoléon, et que, ma foi, n'ayant plus d'autre choix, plutôt que d'être un des vulgaires escrocs du Code, vous avez mieux aimé être un des grands assassins de l'histoire. Donc, au lieu de vous souiller, ce sang vous a lavé. Fort bien. Je continue. 8. Quand ce fut fini, Paris vint voir. La foule afflua dans ces lieux terribles. On la laissa faire. C'était le but du massacreur. Louis Bonaparte n'avait pas fait cela pour le cacher. Le côté sud du boulevard était couvert de papiers de cartouches déchirés. Le trottoir du côté nord disparaissait sous les plâtras détachés par les balles des façades des maisons et était tout blanc comme s'il avait neigé. Les flaques de sang faisaient de larges taches noirâtres dans cette neige de débris. Le pied n'évitait un cadavre que pour rencontrer des éclats de vitres, de plâtre ou de pierre. Certaines maisons étaient si écrasées de mitrailles et de boulets qu'elles semblaient prêtes à crouler. Entre autres la maison Salandrouze dont nous avons parlé et le magasin de deuil au coin du faubourg Montmartre. La maison Bicoq, dit un témoin, est encore aujourd'hui étayée par de fortes pièces en bois et la façade sera en partie reconstruite. La maison des tapis est percée à jour en plusieurs endroits. Un autre témoin dit « Toutes les maisons, depuis le cercle des étrangers jusqu'à la rue Poissonnière, étaient littéralement criblées de balles, du côté droit du boulevard surtout. » Une des grandes glaces du magasin de la petite Jeannette en avait reçu certainement plus de 200 pour sa part. Il n'y avait pas une fenêtre qui n'eût la sienne. On respirait une atmosphère de salpêtre. 37 cadavres étaient entassés dans la cité bergère et les passants pouvaient les compter à travers la grille. Une femme était arrêtée à l'angle de la rue Richelieu. Elle regardait. Tout à coup, elle s'aperçoit qu'elle a les pieds mouillés. « Tiens, dit-elle, il a donc plu, j'ai les pieds dans l'eau. »« Non, madame, lui dit un passant, ce n'est pas de l'eau. » Elle avait les pieds dans une mare de sang. Rue Grange-Batelière, on voyait dans un coin 3 cadavres entièrement nus. Pendant la tuerie, les barricades du boulevard avaient été enlevées par la brigade Bourgon. Les cadavres des défenseurs de la barricade de la porte Saint-Denis, dont nous avons parlé en commençant ce récit, furent entassés devant la porte de la maison Jouvin. « Mais, dit un témoin, ce n'était rien comparé au monceau qui couvrait le boulevard. À 2 pas du théâtre des Variétés, la foule s'arrêtait devant une casquette pleine de cervelle et de sang, accrochée à une branche d'arbre. Un témoin dit, un peu plus loin que les Variétés, « Je rencontre un cadavre, la face contre terre. Je veux le relever, aidé de quelques personnes. Des soldats nous repoussent. » Un peu plus loin, il y avait 2 corps, un homme et une femme, puis un seul, un ouvrier. Nous abrégeons. De la rue Montmartre à la rue du Sentier, on marchait littéralement dans le sang. Il couvrait le trottoir, dans certains endroits, d'une épaisseur de quelques lignes. Et sans hyperbole, sans exagération, il fallait des précautions pour ne pas y mettre les pieds. Je comptais là 33 cadavres. Ce spectacle était au-dessus de mes forces. Je sentais de grosses larmes sillonner mes joues. Je demandais à traverser la chaussée pour rentrer chez moi, ce qui me fut accordé. Un témoin dit, « L'aspect du boulevard était horrible. Nous marchions dans le sang, à la lettre. Nous comptâmes 18 cadavres dans une longueur de 25 pas. Un témoin marchant de la rue du Sentier dit « J'ai fait le trajet du boulevard du Temple chez moi. Je suis rentré avec 1 pouce de sang à mon pantalon. » Le représentant Versigny raconte « Nous apercevions au loin, jusque près de la porte Saint-Denis, les immenses feux des bivouacs de la troupe. C'était, avec quelques rares lampions, la seule clarté qui permit de se retrouver au milieu de cet affreux carnage. Le combat du jour n'était rien, à côté de ces cadavres et de ce silence. R et moi, nous étions anéantis. Un citoyen vint à passer. Sur une de mes exclamations, il s'approcha, me prit la main et me dit « Vous êtes républicain. Moi, j'étais ce qu'on appelait un ami de l'ordre, un réactionnaire. » Mais il faudrait être abandonné de Dieu pour ne pas exécrer cette effroyable orgie. La France est déshonorée. » Et il nous quitta en sanglotant. Un témoin qui nous permet de le nommer, un légitimiste, l'honorable M. de Cherville, déclare « Le soir, j'ai voulu recommencer ces tristes investigations. Je rencontrai rue Le Pelletier, messieurs Bouillon et Gervais de Caen. Nous fîmes quelques pas ensemble. Et je glissais. Je me retins à M. Bouillon. Je regardais à mes pieds. J'avais marché dans une large flaque de sang. Alors M. Bouillon me raconta que le matin, étant à sa fenêtre, il avait vu le pharmacien dont il me montrait la boutique, occupé à enfermer la porte. Une femme tomba. Le pharmacien se précipita pour la relever. Au même instant, un soldat l'ajusta et le frappa, à 10 pas, d'une balle dans la tête. M. Bouillon, indigné et oubliant son propre danger, cria aux passants qui étaient là, « Vous témoignerez tous de ce qui vient de se passer !» Vers les 11 heures du soir, quand les bivouacs furent allumés partout, M. Bonaparte permit qu'on s'amusât. Il y eut sur le boulevard comme une fête de nuit. Les soldats riaient et chantaient en jetant au feu les débris des barricades. Puis, comme à Strasbourg et à Boulogne, vinrent les distributions d'argent. Écoutons ce que raconte un témoin. « J'ai vu, à la porte Saint-Denis, un officier d'état-major remettre 200 francs au chef d'un détachement de 20 hommes, en lui disant « Le prince m'a chargé de vous remettre cet argent pour être distribué à vos braves soldats. » Il ne bornera pas là les témoignages de sa satisfaction. Chaque soldat a reçu 10 francs. Le soir d'Austerlitz, l'empereur disait « Soldats, je suis content de vous ». Un autre ajoute « Les soldats, le cigare à la bouche, narguaient les passants et faisaient sonner l'argent qu'ils avaient dans la poche. » Un autre dit « Les officiers cassaient les rouleaux de louis comme des bâtons de chocolat. » Les sentinelles ne permettaient qu'aux femmes de passer. Si un homme se présentait, on lui criait « Au large !» Des tables étaient dressées dans les bivouacs. Officiers et soldats y buvaient. La flamme des brasiers se reflétait sur tous ces visages joyeux. Les bouchons et les capsules blanches du vin de champagne surnageaient sur les ruisseaux rouges de sang. De bivouac à bivouac, on s'appelait avec de grands cris et des plaisanteries obscènes. On se saluait « Vive les gendarmes ! Vive les lanciers !» et tous ajoutaient « Vive Louis-Napoléon !» On entendait le choc des verres et le bruit des bouteilles brisées. Ça et là, dans l'ombre, une bougie de cire jaune ou une lanterne à la main. Des femmes rôdaient parmi les cadavres, regardant l'une après l'autre ses faces pâles et cherchant celle-ci son fils, celle-ci son père, celle-là son mari. 9. Délivrons-nous tout de suite de ces affreux détails. Le lendemain, 5, au cimetière Montmartre, on vit une chose épouvantable. Un vaste espace, resté vague jusqu'à ce jour, fut utilisé pour l'inhumation provisoire de quelques-uns des massacrés. Ils étaient ensevelis, la tête hors de terre, afin que leurs familles puissent les reconnaître. La plupart, les pieds dehors, avec un peu de terre sur la poitrine. La foule allait là, le flot des curieux vous poussait, on errait au milieu des sépulcres, et par instants on sentait la terre plier sous soi. On marchait sur le ventre d'un cadavre. On se retournait, on voyait sortir de terre des bottes et des sabots ou des brodequins de femmes. De l'autre côté était la tête que votre pression sur le corps faisait remuer. Un témoin illustre, le grand statuaire David, aujourd'hui proscrit et errant hors de France, dit « J'ai vu au cimetière Montmartre une quarantaine de cadavres encore vêtus de leurs habits. On les avait placés à côté l'un de l'autre. Quelques pelletées de terre les cachaient jusqu'à la tête, qu'on avait laissées découvertes afin que les parents les reconnussent. Il y avait si peu de terre qu'on voyait les pieds encore à découvert, et le public marchait sur ces corps, ce qui était horrible. Il y avait là de nobles têtes de jeunes hommes, tout empreintes de courage. Et au milieu était une pauvre femme, la domestique d'un boulanger, qui avait été tuée en portant le pain aux pratiques de son maître. Et à côté une belle jeune fille, marchande de fleurs sur le boulevard. Ceux qui cherchaient des personnes disparues étaient obligés de fouler aux pieds les corps, afin de pouvoir regarder de près les têtes. J'ai entendu un homme du peuple dire avec une expression d'horreur « On marche comme sur un tremplin ». La foule continua de se porter aux divers lieux où des victimes avaient été déposées, notamment cité Bergère, si bien que ce même jour, 5, comme la multitude croissait et devenait importune, et qu'il fallait éloigner les curieux, on put lire sur un grand écriteau, à l'entrée de la cité Bergère, ces mots en lettres majuscules. « Ici, il n'y a plus de cadavres. » Les trois cadavres nus de la rue Grange-Batelière ne furent enlevés que le 5 au soir. On le voit, et nous y insistons, dans le premier moment et pour le profit qu'il en voulait faire, le coup d'État ne chercha pas le moins du monde à cacher son crime. la pudeur ne lui vint que plus tard. Le premier jour, bien au contraire, il l'étala. L'atrocité ne suffisait pas, il fallait le cynisme. Massacrer n'était que le moyen, terrifier était le but. 10. Ce but fut-il atteint ? Oui. Immédiatement, dès le soir du 4 décembre, le bouillonnement public tomba. La stupeur glaça Paris. L'indignation qui élevait la voix devant le coup d'État se tut subitement devant le carnage. Ceci ne ressemblait plus à rien de l'histoire. On sentit qu'on avait affaire à quelqu'un d'inconnu. Crassus a écrasé les gladiateurs, Hérode a égorgé les enfants, Charles IX a exterminé les Huguenots, Pierre de Russie, les Strelitz, Mehemet Ali, les Mamelouks, Mahmoud, les Janissaires, Danton a massacré les prisonniers. Louis Bonaparte venait d'inventer un massacre nouveau, le massacre des passants. Ce massacre termina la lutte. Il y a des heures où ce qui devrait exaspérer les peuples les consterne. La population de Paris sentit qu'elle avait le pied d'un bandit sur la gorge. Elle ne se débattit plus. Ce même soir, Mathieu de la Drôme entra dans le lieu où siégeait le comité de résistance et nous dit « Nous ne sommes plus à Paris, nous ne sommes plus sous la République, nous sommes à Naples et chez le roi Bomba. » À partir de ce moment, quels que fussent les efforts du comité, des représentants et leurs courageux auxiliaires, il n'y eut plus, sur quelques points seulement, par exemple à cette barricade du Petit Carreau, où tomba si héroïquement Denis Dussoubre, le frère du représentant, qu'une résistance qui ressemblait moins à un combat qu'aux dernières convulsions du désespoir. Tout était fini. Le lendemain, 5, les troupes victorieuses paradaient sur les boulevards. On vit un général montrer son sabre nu au peuple et crier « La République, la voilà !» Ainsi, un égorgement infâme, le massacre des passants, voilà ce que contenait comme nécessité suprême la mesure du 2 décembre. Pour l'entreprendre, il fallait être un traître. Pour la faire réussir, il fallait être un meurtrier. C'est par ce procédé que le coup d'État conquit la France et vainquit Paris. Oui, Paris. On a besoin de se le répéter à soi-même. C'est à Paris que cela s'est passé. Grand Dieu, les Basquirs sont entrés dans Paris, la lance haute, en chantant leur chant sauvage. Moscou avait été brûlée. Les Prussiens sont entrés dans Paris. On avait pris Berlin. Les Autrichiens sont entrés dans Paris, on avait bombardé Vienne. Les Anglais sont entrés dans Paris, le camp de Boulogne avait menacé Londres. Ils sont arrivés à nos barrières, ces hommes de tous les peuples, tambours battants, clairons en tête, drapeaux déployés, sabres nus, canons roulants, mèches allumées, ivres, ennemis, vainqueurs, vengeurs, criant avec rage devant les dômes de Paris les noms de leur capitale, Londres, Berlin, Vienne, Moscou. Eh bien, dès qu'ils ont mis le pied sur le seuil de cette ville, dès que le sabot de leurs chevaux a sonné sur le pavé de nos rues, Autrichiens, Anglais, Prussiens, Russes, tous, en pénétrant dans Paris, ont entrevu dans ces murs, dans ces édifices, dans ce peuple, quelque chose de prédestiné, de vénérable et d'auguste. Tous ont senti la sainte horreur de la ville sacrée. Tous ont compris qu'ils avaient là, devant eux, non la ville d'un peuple, mais la ville du genre humain. Tous ont baissé l'épée levée. Oui, massacrer les Parisiens, traiter Paris en place prise d'assaut, mettre à sac un quartier de Paris, violer la seconde ville éternelle, assassiner la civilisation dans son sanctuaire, mitrailler les vieillards, les enfants et les femmes dans cette grande enceinte, foyer du monde. Ce que Wellington avait défendu à ses montagnards demi-nus, ce que Schwarzenberg avait interdit à ses Croates, ce que Blücher n'avait pas permis à sa Landwehr, ce que Platoff n'avait pas osé faire faire par ses Cosaques. Toi, tu l'as fait faire par des soldats français. Misérable !